Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 4.
Saison 4 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Claire Arnaud et Philomène Delru. Bonjour Claire et Philomène.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la tête de votre propre agence, Arnaud et Delru Architectes, fondée en 2016. Soit à peine 6 ans d'exercice, temps court à l'échelle du projet d'architecture, mais qui vous a tout de même donné le temps de réaliser des logements, notamment si l'on en croit votre site web. Vous y revendiquez d'ailleurs une réflexion au service du projet, l'examen du contexte inhérent au projet, susciter le sensoriel dans le projet, et enfin la nécessité de bâtir une architecture pérenne. Ce qui nous dit que vous appartenez à cette jeune génération d'architectes, prête à renouer avec le bon sens pour une architecture respectueuse du vivant, non pas que les architectes plus installés ne l'ont pas loin de là. Mais l'on sait ô combien la jeune architecture a le désir de rendre le monde plus désirable. D'ailleurs, vous êtes membre du mouvement pour une frugalité heureuse et créative, membre de l'association Ecopolis, professionnel de la pierre naturelle. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais avant, je vais interroger votre désir d'architecture. Quels ont été vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ou vos envies d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, on commence par Philomène ou Claire? Philomène?
Alors moi, je suis née à Nancy, en Lorraine, où j'ai fait toutes mes études et mon lycée, où j'ai fait un bac ES et avec l'option théâtre, où j'ai fait beaucoup de théâtre durant ma jeunesse. Pas que je sois très vieille, mais enfin. mon ancrage à l'architecture, il s'est constitué depuis toujours, parce que mon père était architecte et ma mère artiste peintre. Donc, disons que j'ai grandi, évolué dans un environnement très marqué par l'architecture et l'art. C'était assez omniprésent dans mon quotidien. Et
votre père avait sa propre agence où il était ?
Oui,
il avait sa
tout à fait. Il avait sa propre agence jusqu'à très peu de temps,
oui.
En fait.
Parce que vous êtes jeune, donc c'est la question que j'allais vous poser.
Effectivement, en fait, Claire et moi, on a eu l'opportunité de travailler à ses côtés pendant un ou deux ans. On l'a accompagné sur une belle opération qui a été aussi une de nos premières références. On y reviendra. Mon souhait d'être architecte s'est manifesté peut-être, c'était peut-être par mimétisme inconscient, je ne sais pas, mais c'est venu assez naturellement. Et puis, lors de mes études en école d'archi, ça s'est complètement révélé. C'est vrai qu'au lycée, je n'étais pas forcément très, un peu cancre.
Ce que je voulais dire, vous étiez un peu cancre, mais pas forcément très sérieuse.
Disons que je n'étais pas très assidue et que je me suis vraiment révélée lors de mes études supérieures. Voilà, et je suis allée faire une école d'architecture un peu par instinct, donc ça aurait pu ne pas marcher et ça m'a vraiment révélée. Voilà.
Bon, vous étiez plutôt dans l'ennui à l'école, tandis que là, vous avez commencé à prendre du plaisir dans un cadre d'enseignement.
Oui,
c'est un peu ça.
Exactement. Ouais.
Peut-être que Claire va enchaîner et puis après, on rebondira sur la suite.
Oui.
Ça vous va?
J'ai fait toute ma scolarité à Paris. Contrairement à Philomène, j'étais pas du tout initiée à l'architecture. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Pour moi, en fait, le choix de l'architecture, c'était plutôt un moyen de me détourner d'une voie un peu prépa à Angers. J'ai fait un bac S à Paris. Et J'ai aussi pas mal baigné dans l'art, à la fois la musique et la peinture. Mais sans vraiment savoir à quoi m'attendre, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas une école d'architecture. Ça me semblait être un peu une sorte de compromis entre un métier qui serait moins technique que de faire une prépa plus école d'ingé. Et à la fois, il y avait cette sensibilité à l'art qui me plaisait. Mais un peu de la même manière que Philomène aussi, j'ai un peu la même expérience d'arriver en école sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et de découvrir vraiment l'architecture et la pratique, notamment la conception du projet à l'école, qui est quelque chose qui était une pratique complètement différente et pas du tout scolaire comme ce que j'avais l'habitude de faire avant. Donc c'était une sorte de choc au début. Et ensuite, c'est une révélation. Ça a mis un peu de temps de passer le choc. Et puis ensuite, c'est devenu...
Un plaisir aussi.
Ouais, exactement.
Vous êtes connus à l'école ?
Ouais, on s'est connus en première année. On était dans le même studio.
À l'école ?
À l'école, donc Paris-Val-de-Seine, dans le 13e arrondissement. Ensuite, on a changé de studio. On est allé dans un atelier de projet, puisque l'école Paris-Val-de-Seine est une des dernières écoles à proposer ce type
d'enseignement
en fait, par atelier, qui a été très riche, je crois, pour toutes les deux. Ça a été vraiment structurel dans notre approche de l'architecture et dans l'enseignement. Et ensuite, on est resté dans le même atelier jusqu'en cinquième année, l'atelier Le Normand. Et puis ensuite, en cinquième année, on a changé d'atelier pour aller avec un prof qui nous convenait davantage pour la problématique qu'on voulait développer lors du PFE.
Qui était
Michael Alter.
D'accord. Okay.
Et Alexiane Rossi.
Oui, tout à fait. Mais on a très vite, dès la, je pense, deux ou troisième année, commencé à travailler en binôme, en atelier de projet. Mmh. Et puis, ça a assez bien fonctionné. Donc, on a continué assez naturellement jusqu'au diplôme. Et voilà.
Et la même année, diplômé la même année ?
Ah oui, on a réalisé notre diplôme ensemble, en binôme.
Ah oui, oui.
En fait, on a fait presque tous nos projets... d'archi en binôme ensemble.
D'accord. Et pour le coup, vous avez travaillé chez votre papa pendant que vous étiez étudiante ou après ?
Lorsque j'étais étudiante, disons, oui, un petit peu, pendant les vacances. Ça n'a pas été dans le cadre de vrais stages, mais c'était plus de manière informelle où je l'ai beaucoup suivi sur ses chantiers, où je suivais l'avancement des différentes opérations qu'il menait. Donc ça, en fait, un peu depuis toujours, d'ailleurs. Enfin, même quand j'étais pas en archi, je le suivais un peu sur ses chantiers. Mais donc, du coup, avec plus d'intérêt et de curiosité durant mes études. D'accord. Et puis après, de manière un peu plus formelle, ouais, en 2017-2018, en compagnie de Claire, où on l'a accompagnée sur une opération de construction d'une petite salle communale à Longeville-en-Barrois, dans la Meuse. Opération en pierre massive. Et qui a été pour nous aussi une super expérience.
Un premier projet initiatique, en fait.
Tout à fait.
Ouais.
Voilà.
Mais accompagné avec
ouais.
Quelqu'un qui est donc entre guillemets en fin de carrière, parce que ça peut ne jamais s'arrêter chez les architectes.
Oui, là, il a été un peu contraint de s'arrêter. Voilà. Mais effectivement, les architectes ont du mal à s'arrêter.
Parfois, ils ne s'arrêtent pas, d'ailleurs. Ils vont jusqu'au
exactement.
Bout.
En effet.
Et votre père a vendu son agence ou il a retrouvé ici une continuité ?
Non, pas du tout. Mon père a développé une toute petite structure. Il a quasiment toujours été seul. Il a beaucoup travaillé en association avec un confrère pour de nombreux projets. Ils n'ont jamais été réellement associés, mais ont développé beaucoup d'opérations ensemble.
Et ça se passe à Paris ou...
En Lorraine, à Nancy et puis à Toul, à quelques kilomètres de Nancy, et où il a développé en fait des opérations publiques, uniquement du public, sur des programmes scolaires, d'écoles, lycées, un musée, réhabilitation d'un musée, voilà, en neuf et aussi pas mal en réhabilitation. Voilà. Et ce qui m'a permis d'ailleurs à me familiariser, enfin avoir déjà un premier regard, j'allais dire, sur justement ce qu'est la commande publique, la maîtrise d'œuvre publique.
Oui.
Mon père a travaillé beaucoup avec le matériau pierre. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose aussi à l'agence qu'on porte. C'est un matériau qui nous intéresse énormément, qu'on essaie de mettre en œuvre. Et il nous a beaucoup aidés. On le suivait aussi à certains colloques ou rencontres, la visite de carrière. Enfin, c'est vrai que pour nous, ça a été aussi un...
Finalement, aussi formateur que l'école.
Tout à fait,
Alors, j'ai vu que vous aviez quand même livré quelques projets. Combien ou...
Justement, le projet dont Philomène parlait, qui est le projet de Longeville-en-Barrois, qui est cette salle, qui est une salle multi-activité communale, qui est un bâtiment en pierre massive et sur lequel on a travaillé en co-traitance avec justement Pascal Delru. Et puis, on travaille en ce moment, c'est un peu un projet qu'on porte depuis la création de l'agence, qui est en chantier en ce moment. Le clos est couvert et est terminé. Et c'est la construction de 16 logements seniors, aussi en pierre massive, dans l'est de la France. Mmh.
C'est bien celui-là que j'ai vu sur votre site. Alors.
Mmh. Ouais.
Donc, il n'est pas tout à fait livré. Je pensais qu'il l'était.
Non, peut-être... c'est un projet de longue haleine.
Peut-être que vous avez vu un projet sur lequel Philomène avait travaillé... qui était aussi du logement social à Verdun, qui est un projet réalisé par l'atelier Delru, l'atelier du père de Philomène, et qui est un peu le premier projet où on a pu se dire qu'on pouvait faire du logement social en pierre massive. En fait, c'était tout un travail avec l'entreprise de la pierre, de découpage, de calepin, de comment optimiser les blocs de pierre pour être le plus économe possible, pour pouvoir réaliser du petit logement collectif pour un OPH, pour l'OPH de la Meuse en l'occurrence.
D'accord. Voilà. Mmh. Bah, c'était déjà une responsabilité pour débuter, c'est bien.
Oui, ça a motivé aussi notre envie de s'installer, peut-être. Comme dit Claire, c'était aussi un exemple pour nous de se dire qu'effectivement, c'était possible d'apporter de la qualité, même sur des toutes petites opérations de logement social, d'essayer de tenir le projet, de le faire en pierre massive. Il n'est pas complètement en pierre massive, mais il y en a une grande partie. Et ça nous a permis, d'avoir un premier aperçu de ce que pouvait être une opération.
Vous avez suivi vous-même le chantier ?
Accompagnée de mon père, parce que j'étais pas encore diplômée à l'époque.
Ouais.
C'était juste avant le diplôme, donc c'était pas officiel, disons.
Et comment on arrive alors c'est un bel exemple de rentrer dans des coûts avec des mises en œuvre qualitatives de ce niveau-là, sur des opérations sociales, etc. Ou de petites localités, ou comment on arrive à rentrer dans des enveloppes sur ce type de projet, avec la qualité que vous proposez.
Comme l'a amorcé Claire, il y a un gros travail en amont. C'est un travail avec soit des entreprises, partenaires, avec qui on échange beaucoup, donc de comment on va construire le bâtiment, comment on va concevoir le bâtiment pour qu'il soit le plus simple et rationnel possible pour minimiser les découpes, minimiser les blocs, en échangeant aussi avec la carrière. Forcément, ça passe par des choix, j'allais dire, de conception et constructif, pour en fait tendre toujours vers une architecture qui va être la plus dépouillée, mais simple, sans superflu, et de mettre en valeur ce qui est pour nous l'essentiel. Par exemple, les proportions, c'est aussi un thème, un sujet qui nous intéresse, Claire et moi, beaucoup à l'agence, qu'on a aussi essayé de mettre en pratique dans ce projet de 16 logements seniors à Montbonvillers. Donc, même si on épure certaines choses, on essaye quand même toujours de garder certains principes. Par exemple, dans ces petits logements, c'était d'avoir de belles proportions, de belles dimensions, de belles hauteurs sous plafond, parce qu'on pense que ça a vraiment un impact direct sur les habitants qui seront dedans. C'était travailler sur les différents types d'espaces. Là, c'est un projet qui est très, très, très dense. On est sur une parcelle qui, au final, est assez contrainte au vu du nombre de logements qu'on y implante.
C'est du logement individuel, donc c'est dense pour du logement individuel. Enfin, oui. C'était la demande de la maîtrise d'ouvrage.
Oui, effectivement, parce qu'on est en milieu rural, on a très peu d'espace extérieur, enfin de jardin proprement dit. Donc on a quand même essayé de créer un espace extérieur. Donc ici, ça se représente par des patios, des petits patios. Donc en fait, c'est des projets qui ne sont pas évidents, mais voilà, où on a essayé quand même d'apporter de la qualité. Et voilà.
C'est assez beau. En fait, on est dans une volumétrie très simple, mais le mur en pierre apporte une beauté qui est assez exceptionnelle.
Pour rebondir, c'est aussi effectivement, donc c'est dans la conception du projet, toujours penser le projet avec une ambition, savoir toujours qui doit rentrer dans ce budget-là, etc. Et ensuite, à chaque fois, il y a des choix à faire. Et donc, il y a tout le temps des choix qui viennent et on doit à chaque fois arbitrer entre... Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas transiger, par exemple, et d'autres où on peut faire peut-être plus d'efforts ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi ce qui nous permet de rentrer dans les budgets.
D'accord. Vous avez un peu de projet d'archi intérieur ?
Oui.
J'ai cru comprendre ça. Pas forcément des projets d'archi.
Ouais.
Dans lequel vous intervenez, c'est aussi.
Alors pour nous, c'est de la même manière un projet d'archi, que ce soit des réhabilitations intérieures ou de la construction neuve. En fait, on a la chance à l'agence d'avoir des projets assez variés. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets en petite réhabilitation, notamment des appartements, en gros du privé. Ça, c'est des projets qu'on a depuis qu'on a créé l'agence parce que. D'une certaine manière, c'est plus simple d'accéder à cette commande-là.
Tout à fait. Ça fait des générations où on commence par là.
Exactement. Mais c'est une pratique on aborde le projet plus ou moins de la même manière, en fait, que si on faisait de la construction neuve. Voilà, on s'attache toujours, là aussi, aux proportions. Enfin, on travaille sur vraiment le dimensionnement des espaces, surtout dans les espaces contraints où... On trouve que c'est important de faire attention à ça. Et puis ensuite, déjà aussi l'immeuble dans lequel ça s'inscrit. Est-ce qu'il y a besoin d'une intervention aussi qui va plus toucher à la thermique ou au confort, au regard de l'existant ? Parce que c'est vrai que c'est souvent des bâtiments anciens. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour ne pas dégrader en fait, l'ancien. Et puis c'est aussi donc, travailler sur le confort d'habiter. Et la mise en œuvre de matériaux. Nous, on s'intéresse beaucoup à la matérialité de manière générale et puis d'essayer de mettre en œuvre toujours des matériaux pérennes, en fait. Enfin, d'essayer de faire les projets qui vont être le plus raisonnables du point de vue du coût, mais du point de vue des matériaux. Enfin, voilà, un peu le même... On a la même approche, d'une certaine manière.
Des matières plutôt nobles.
Ou des matières...
Circuits courts, pas forcément.
Alors,
quand vous pouvez.
Ouais.
Oui, voilà.
Ça, on en a parlé plusieurs fois ensemble. C'est vrai que pour les projets de ce type, c'est plus compliqué on essaye le plus possible, évidemment. Déjà, en tant qu'archi, on a peut-être moins de marge du fait aussi de nos honoraires. On a peut-être moins de place pour faire ce genre de recherche.
Oui.
Et puis la filière de ce type de rénovation et d'intervention est moins organisée. C'est un peu plus compliqué, mais on essaye le plus possible. Mais on en parle souvent, justement. Effectivement, c'est un sujet d'essayer de faire le mieux possible et peut-être, pourquoi pas, de voir comment améliorer la filière de ce point de vue-là, parce que c'est assez...
C'est la jungle.
Un peu la jungle, ouais.
Ouais.
Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, les exemples qu'on voit... ça vient aussi d'une volonté de la maîtrise d'ouvrage, souvent lorsqu'ils vont au bout. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile sur des opérations privées comme ça, avec des particuliers. On essaye tant que possible, mais c'est vrai que c'est moins évident.
Ouais.
Et puis on développe aussi depuis l'année dernière, en réhabilitation aussi, mais sur une plus grosse opération avec le Musée des Arts Asiatiques Guimet, où on refait les locaux du personnel. Donc ça a été c'est une expérience très enrichissante pour nous.
Ce sera une belle référence pour vous.
Oui, alors c'est sur des petits locaux qui sont pas forcément vus par le public, mais c'est ce qui est très intéressant parce qu'on voit vraiment le musée de l'intérieur, tout son fonctionnement. On s'insère dans un patrimoine assez exceptionnel où il y a beaucoup de contraintes du fait de la pluralité des équipes, des différents flux visiteurs. membre du musée, etc. Donc c'est un peu une opération à tiroir qui va se dérouler sur plusieurs années au final. La maîtrise d'ouvrage avait une volonté de faire des opérations, enfin une opération justement avec des matériaux ou des produits bio, géosourcés, enfin assez qualitatives en tout cas pour ces agents. Donc c'est intéressant pour nous de travailler.
Vous avez répondu à un appel d'offres ?
Alors c'était pas un appel d'offres public. Plusieurs agences ont été consultées et effectivement on a répondu une petite note et on a été sélectionnés.
Seul ou on est qui avec
Non, seul.
Bravo.
Et puis, en fait, après, on a travaillé donc, avec des bureaux d'études qui étaient déjà, qui travaillaient déjà avec le musée.
Oui.
Ouais. Et là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment à la question de la réhabilitation et des interventions qu'on peut faire dans la durée, etc. Puisque quand on est arrivé sur l'opération, il y avait déjà un pré-programme qui avait été réalisé. Mais la maîtrise d'ouvrage n'était pas totalement fixée sur ce qu'elle voulait faire, etc. Donc au final, en échangeant avec la maîtrise d'ouvrage, on lui a conseillé finalement de vraiment bien réfléchir sur l'ensemble et la globalité du projet pour ne pas faire une intervention qui pourrait être obsolète dans 5 ans, puisqu'ils avaient de toute façon d'autres projets pour le musée. Donc on a essayé de travailler sur, de faire un état des lieux global de vraiment l'intégralité des locaux du personnel du musée pour essayer ensuite d'avoir une approche cohérente dans les petites interventions à tiroir qu'on est en train de réaliser par la suite. Après, voilà, on a des contraintes parfois qui sont des contraintes financières, etc., qui empêchent parfois la réalisation du projet comme elle devrait être. Mais voilà, c'est vraiment ce travail un peu global.
Donc finalement, on a débuté en fait notre opération en disant il faut qu'on refasse une sorte de gros diagnostic, grosse analyse pour proposer des stratégies qui vont être pertinentes. Donc il y a eu une grosse phase de faisabilité et d'analyse du site existant. Quoi.
D'accord. Vous travaillez toutes les deux ou vous avez juste toutes les deux ? Comment vous êtes organisées ?
Alors, on a créé l'agence donc toutes les deux. On est donc co-gérante et associée. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons accueilli un apprenti, 3 jours par semaine et 2 jours à l'école. C'est un format qui est assez intéressant pour nous, parce qu'il est très aidé par l'État, mais qui nous a permis justement de nous soulager dans notre charge de travail. Et le fait que ce soit un étudiant, c'était assez intéressant d'échanger avec lui justement sur ce qu'il faisait à l'école. Voilà. Donc c'était un bon...
Oui, c'est un petit
système.
Noyau qui...
Mais oui, on est...
Qui démarre.
3 ou...
On
est au mieux 4.
Oui, voilà.
Voilà.
Ouais,
quand même. C'est bien.
Oui. Aujourd'hui, on est
plus
2,5, quoi.
Voilà.
Enfin, ouais.
Oui.
Voilà. Mais l'apprentissage, c'est vrai que c'était assez chouette, puisque par rapport à c'est pas le même rapport quand même qu'un stage. Il y a vraiment un engagement des deux parties sur quand même une plus longue durée. Et puis, il y a cette...
Oui, notion de transmission et de formation.
Oui.
C'est chouette parce que vous êtes encore jeune et déjà vous êtes dans une logique de transmission, donc c'est bien.
Oui, dans la mesure du possible, c'est vrai qu'il a vraiment genre... Enfin, comme on est une toute petite structure et qu'on est une jeune structure, on est vraiment en phase de recherche, enfin on cherche constamment pour tout, enfin, dans notre méthodologie de travail, dans notre manière de prospecter, à tout niveau. Donc c'était intéressant justement parce qu'il a pu lui voir ça et puis on cherchait aussi avec lui parfois.
Alors il y a de grosses agences qui me disent d'un air assez navré on ne va plus construire, et en soupirant parce que c'est pour eux une intelligence architecturale qui risque de partir en fumée. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'une agence, entre guillemets, débutante ou à ses débuts, en tout cas, arrive à construire Ex Nihilo. C'est bravo, grâce à un soutien, mais vous avez de la chance et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dans votre manière de prospecter, de quelle manière vous vous y prenez par rapport à ça? Par rapport au fait d'avoir accès à une certaine commande qui vous permettrait de quand même de faire des projets ex nihilo, ou vous pensez que vous allez vous orienter vers la réhab, ou un mix des deux en permanence, ou comment à la fois vous le sentez pour votre agence et puis de manière un petit peu plus globale?
Ce que disait Claire tout à l'heure, c'est vrai qu'on tient à ne pas s'enfermer ou se spécialiser dans un type de programme. C'est pas du tout ce qu'on recherche, en tout cas. Notre manière de prospecter, c'est on répond assez classiquement à des appels d'offres publics, parce que c'est souvent des programmes qui nous intéressent. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà été sélectionnés sur des petits concours, ou là encore récemment, pour une petite salle communale, encore en Normandie, en milieu rural. On attend la réponse.
Choisissez-les, elles sont.
On a fait un oral juste avant les vacances. Donc voilà, on prospecte de cette manière. On essaye aussi de s'ouvrir un maximum vers peut-être des groupes de travail. Enfin, on parlait tout à l'heure du mouvement pour une frugalité heureuse et créative, d'Écopolis ou des professionnels de la pierre. Enfin, on essaye, dans la mesure du possible, de sans cesse s'ouvrir aux autres acteurs, à des groupes de travail pour échanger, rencontrer d'autres professionnels et pour phosphorer ensemble sur justement la construction neuve, mais aussi la réhabilitation, qui est quelque chose qui est déjà omniprésent dans notre pratique et qu'on va devoir développer au maximum. Peut-être que Claire en parlera, mais juste, même si c'est un sujet donc, qui est primordial, je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire de la réhabilitation, comment bien le faire, donc se former, et justement la réhabilitation en matériaux biosourcés, enfin, ou de manière pérenne, et pas réhabiliter pour réhabiliter, ou avec des produits un petit peu, enfin, ou du greenwashing, enfin voilà. Donc,
oui. C'est vrai que la, comme disait Philomène, on fait partie du mouvement pour une frugalité heureuse et créative, et justement la dernière rencontre annuelle qu'il y a eu il y a quelques mois, a beaucoup, enfin, il y a eu cette question de faut-il encore construire ? Alors, nous, je pense que ce n'est pas une question qui nous angoisse trop, dans le sens où, effectivement, c'est une question qu'il faut poser à chaque projet, etc. Je ne pense pas qu'on perde de savoir en travaillant sur l'ancien, au contraire, puisque c'est même extrêmement complexe de s'intégrer dans un bâti ancien, justement, sans...
le comprendre avant d'intervenir.
Exactement, puisqu'en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette culture constructive en France qui est quand même très, très orientée sur le béton, qui est devenue la norme constructive, hein, même dans les DTU ou les éléments comme ça. Quand il y a écrit de façon traditionnelle, on parle du béton. C'est vrai que la majeure partie des ingénieurs, etc., ils sont très, très compétents sur ces matériaux-là. Alors que quand il s'agit de travailler sur de l'ancien, bah c'est plus compliqué. Donc justement, c'est peut-être aussi réapprendre toute cette culture constructive qu'on a perdue. Et puis voilà, ça peut aussi être construire du neuf. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas,
y a pas
en opposition forcément.
Il n'y a pas réellement, vous trouvez dans les appels d'offres de pertes, d'appels à projets ex nihilo.
Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, on n'a pas assez de recul ou d'expérience pour s'en rendre compte. Après, c'est vrai que nous, ce qui nous anime, c'est que si on doit intervenir ou faire de la construction neuve, c'est de tenter de jamais perdre un peu notre éthique qui nous a animés à créer l'agence, et de toujours s'interroger à comment on va... est-ce qu'il y a du sens à s'insérer dans ce milieu, comment on va impacter le moins possible sur le vivant. Alors évidemment, ça ne va jamais être exemplaire dans une opération, mais c'est en tout cas toujours tenter de le plus possible se battre, on parlait de ça avec Claire juste avant d'arriver, de garder cette foi qui nous anime.
Oui, de ne pas tomber dans la perversion.
Non, voilà.
De ne pas vous faire pervertir par les normes, par les marchands de matériaux.
Exactement.
Voilà, on peut même dire de tapis, presque.
Mais de toute façon, il faut aussi, c'est sûr que construire, mais de la même manière que même dans la réhabilitation, je veux dire, c'est un acte qui a un impact sur le vivant, mais ça, on ne peut pas non plus le...
Ah bah, c'est obligatoire.
Voilà, c'est obligatoire, donc il y a un moment aussi...
Ou alors, il faut changer de métier.
Exactement. Mais il faut essayer de le faire de la façon la plus... se questionner, il faut respecter, effectivement.
Peut-être réinterroger aussi les besoins, ça passe aussi par les différents programmes. Questionner la maîtrise d'ouvrage sur les besoins, comment les hiérarchiser, peut-être en supprimer certains, mutualiser certains usages. Je pense que les architectes sont un des acteurs, ils ne sont absolument pas les seuls. Ils vont être un acteur de la fabrique du cadre bâti, du territoire. Donc on est un moteur pour donner l'exemple le plus possible et à notre place. Parce que plus on aura d'opérations exemplaires, je pense, et plus, en fait, par effet boule de neige...
On parlera de vous et...
Enfin, on pourra... Enfin, les maîtrises d'ouvrage auront envie de... Enfin, verront que c'est possible, déjà.
Oui.
En fait, nous, on a l'expérience aussi des petites maîtrises d'ouvrage publiques, des collectivités, enfin, des mairies, des communautés de communes, etc. Et en fait, c'est vrai que souvent, elles sont très, très peu formées... justement
à toutes ces problématiques.
Alors il y en a certaines si elles le sont, mais pas forcément. Et donc du coup c'est à nous aussi d'essayer de faire, enfin
de prendre cette place.
Exactement.
Ouais. Et peut-être aussi de faire d'une architecture entre guillemets ordinaire quelque chose de qualitatif. Alors que dans beaucoup, beaucoup de communes, on a vu des constructions, que ce soit l'étalement pavillonnaire en parpaing de très mauvaise qualité, et des constructeurs, parce que ça correspondait à une manière de construire à l'époque, pas cher et vite, qui ont un petit peu tartiné notre territoire, peut-être que vous allez réussir à recoudre tous ces tissus et faire de cette architecture ordinaire qui existe depuis des lustres, en fait, quelque chose d'un petit peu plus pérenne.
Exactement. Oui. On essaye. Oui. Et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, ça vient beaucoup de la maîtrise d'ouvrage. Donc, il faut réussir à travailler avec elle. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les budgets, etc. Nous, on le voit lors des appels d'offres, parce que on dit qu'on arrive à construire par exemple en pierre ou en matériaux biosourcés en étant économe, c'est vrai, mais il faut aussi savoir que les matériaux biosourcés, ça peut être un investissement. Ça va quand même être plus cher qu'une construction qui va être juste en agglo de ciment par exemple. Donc il faut qu'il y ait un peu aussi cette volonté de la maîtrise d'ouvrage. Et nous, on le voit par exemple, c'est que ce n'est pas toujours le cas, parce que quand on voit des appels d'offres pour justement des petits lotissements, des salles communales, des choses comme ça, et qu'on voit le budget au mètre carré, rien qu'en voyant ça déjà, on voit l'ambition qui est en face. Et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler, quoi.
Ouais. Encore un podcast où nous avons des bonnes nouvelles. J'ai cette question récurrente dans Comme d'Archi qui est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Vous étiez très déterminée dans votre volonté de vous associer, d'y arriver et de sortir des projets ?
De s'associer, je crois que c'était assez sous-jacent. Je laisserai Claire répondre. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui nous animait pas mal. C'était de pouvoir mettre en pratique, en tout cas, notre un peu éthique ou d'essayer
vos valeurs,
nos valeurs communes, tout à fait, d'essayer de le mettre en pratique. Et après, je crois que là, on est aussi pour l'instant, on n'a pas accompli. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir encore accompli quelque chose, vu qu'on
est
vraiment.
Mais
on essaye.
On essaye. On est sûr. En fait, mais je sais même pas si un jour on se dira qu'on a accompli. Mais on a l'impression d'être, de faire ce que j'imaginais faire à la sortie de l'école. Après, effectivement, c'est difficile. Mais là, on rentre dans les questions plus techniques sur le principe.
Lâcher.
Voilà. Ouais. Sur le principe, on fait ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on pensait faire.
Oui, en tout cas, on a accompli cette volonté de créer quelque chose ensemble et d'essayer de le faire durer, de le développer.
Voilà.
D'accord. Alors, j'ai une nouvelle question dans la saison 4. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons ? De quelle manière on peut prêcher la bonne parole, finalement ? Puisque vous avez décidé, vous, d'engager une voie sérieuse, vertueuse, et voilà.
Je pense qu'on va avoir des réponses diverses. Moi, je pense que c'est une question... appréhender le monde, déjà, actuel, c'est quand même très compliqué. On est quand même dans un monde extrêmement complexe, avec des équilibres fragiles. On ne sait pas vraiment, en fait, faire où on va, etc. Donc, ce que je dirais, c'est d'essayer chacun individuellement, déjà, ou de se regrouper, enfin, voilà, mais d'avoir individuellement cette envie de faire ce qu'il juge bien. Et voilà, déjà, pour les architectes, de se rendre compte que on a un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais qu'on est on a une activité qui a un impact sur le cadre bâti et du coup l'environnement et le territoire. Donc, fort de ce principe, il faut essayer d'agir en fonction et de faire le mieux possible, d'essayer d'emmener les gens avec nous, de faire convaincre. Ce qu'on peut à son échelle, quoi, en fait.
Mmh. Philomène ?
Oui, bah, je partage ce que vient de dire Claire. Oui, essayer de rester honnête avec ses...
Droit dans ses bottes.
Avec sa vertu. Non, avec sa morale. Enfin,
avec son éthique.
Oui, avec son éthique. Enfin, non, mais j'ai l'impression que je répète un peu toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais essayer aussi toujours de s'ouvrir pour y apporter, pour nourrir et rendre plus riche son éthique. Et ça, je pense que les études d'architecture sont bien aussi pour ça, c'est qu'elles ouvrent à beaucoup de choses, enfin, elles donnent beaucoup de clés pour comprendre d'autres disciplines, etc. Et c'est vrai que je m'efforce d'essayer de rester toujours ouverte aux arts, à tout ce qui nous entoure pour essayer de mieux le comprendre et donc, une fois au travail, d'essayer d'agir simplement, le mieux possible. Et peut-être, je reviens sur le mot pérennité que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que c'est un terme qui nous est assez cher et qu'on met souvent en avant. Et c'est vrai que cette notion de pérennité qui va faire patrimoine sur le territoire, où une architecture va s'inscrire dans un lieu, dans une histoire, va peut-être susciter des symboliques. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous.
Ou va changer d'usage.
Exactement, qui est important pour nous. Et je pense que c'est d'ailleurs l'essentiel en architecture, et c'est ce qui permet en fait que les hommes s'approprient en fait le cadre bâti dans lequel ils évoluent, quoi.
Est-ce que vous vous projetez un peu dans l'avenir, dans le monde de demain ?
Oui, enfin, oui, à vous les dire de manière, est-ce qu'on arrive à se projeter ou est-ce que tout est foutu ?
Ouais, c'est un petit peu ça, enfin, on vous a tellement dit que vous alliez tous, non mais voilà, je pense qu'à ma génération, on comprend tout à fait que ça, tous les problèmes environnementaux vous soient chevillés au corps. Ça, c'est normal, puisqu'on n'a pas arrêté de vous rabâcher les oreilles en vous disant que. Donc, voilà, est-ce que vous restez optimiste, ouvert et...
C'est vrai que c'est très lourd. Le constat est très lourd. C'est vrai que c'est grave.
Ouais.
Après, en tout cas, je suis plutôt de tempérament optimiste. Je suis assez optimiste sur l'avenir et ça passera justement par une sorte d'éveil ou d'ouverture des consciences de chacun à peut-être être plus sobre, plus bienveillant. Je pense que ça passera aussi, en tant qu'architecte, à s'ouvrir aux autres disciplines, à échanger et à travailler ensemble pour trouver des solutions et s'organiser ensemble. Après, bâtir ou non, je ne sais pas, mais on aura toujours besoin d'abriter les hommes et leurs usages. Donc, peut-être que ça sera d'une autre manière. Mais...
Claire ?
Je partage... Et je dirais aussi que le métier qu'on fait, on sait dans ce métier donc qu'on a aussi un rôle à jouer. Donc d'une certaine manière, peut-être qu'aussi c'est plutôt un moteur. C'est aussi un moteur, disons, puisqu'on se dit que voilà, à notre échelle, on fait aussi en notre possible. Pour,
oui, c'est stimulant.
Ouais, c'est stimulant en fait aussi pour nous.
Oui.
Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait. Enfin, une des raisons aussi pour lesquelles on fait ce métier, parce que Enfin, voilà, on sait que c'est, comme le disait Philomène, il faut abriter les hommes. Et donc, ça fait partie, voilà, comment le faire au mieux dans le contexte actuel.
Alors, vous auriez des conseils à donner aux étudiants, ceux qui vous suivent ?
Plein. Non, mais déjà, voir de l'architecture tout le temps, enfin ça c'est un peu la base.
Apprendre à voir.
Apprendre à voir.
Se promener. Nos avis.
Se promener, oui. Ouais. Aller
marcher.
Ouais, c'est ça. Voir, ça peut être tout, quoi. L'architecture aussi, vous en parliez, ça peut être voir aussi l'architecture domestique, l'architecture un peu usuelle, on va dire commune, comme voilà, voir aussi des choses qui ont été faites par des architectes, beaucoup aussi. Ça, c'est une première chose, je dirais.
Donc, s'engager dans une voie et un métier qui mérite d'être défendu.
Mmh. Oui, tout à fait.
Un mot de la fin ?
Bah oui, justement, garder la foi en ses valeurs, rester positif, joyeux. Et puis voilà, je pense que vraiment s'ouvrir à tous les arts, à tout ce qui est transversal, c'est, je pense, fondamental parce que c'est ce qui nous permet justement de garder cette motivation et de toujours retrouver du beau, de la beauté qui est très stimulant en fait et qui va nous permettre en fait de l'injecter dans notre pratique. Et c'est vrai que c'est important de constamment se former, regarder, écouter ce que font les autres pour continuer en fait ce qui nous semble justement important à valoriser ou à transmettre, à faire perdurer, quoi.
Vous êtes allé voir cet été de l'architecture antique, non? J'ai cru repérer ça sur votre page Instagram.
Mais ça, c'est assez récurrent chez nous.
Mais on aime bien, effectivement, sur notre page Instagram, on aime bien montrer. C'est une sorte de prise de notes visuelles de choses qu'on aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'architecture antique, mais ça, c'est aussi en fonction des voyages qu'on fait. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi de l'architecture moderne.
Et puis, c'est cette attache à la pierre aussi.
Exactement. Notamment, c'est vrai que là, les choses que vous avez vues récemment, c'est de l'architecture grecque. Donc, en plus, c'est vraiment de la pierre massive. Les Romains étaient peut-être un peu plus économes en pierre, même si c'était beaucoup de pierre. Donc là, c'est vraiment la grosse pierre. C'est vrai qu'on aime beaucoup l'esthétique. Mais on aime bien aussi prendre en photo certains détails ou certaines architectures qui sont soit des choses qui sont évidemment très connues. On peut avoir des petites photos de certains bâtiments, même, enfin, de, je sais pas, du Corbusier ou de... Mais on aime bien aussi l'architecture des halls d'immeubles en Italie, à Milan, par exemple. Où, enfin, voilà, c'est assez vaste.
Éclectique.
Éclectique, exactement. Et pour nous, c'est une source d'inspiration.
C'est très nourrissant.
Tout le temps, en fait. Ouais. Ouais.
Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être intervenue dans Comme d'Archi.
Merci de
longue
nous avoir
invité. Longue vie et à votre complicité et à votre agence. Et je vous souhaite de très beaux projets. Ça a l'air d'être bien parti. Bravo. Et puis, vraiment, encore une fois, merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on est dans une pratique un peu embryonnaire, mais vous avez relevé le défi. Donc, voilà. Et puis, c'est sur votre site, j'invite les auditeurs à aller voir ce que vous faites, parce que c'est beau. Tout simplement, c'est simple et beau. Donc, voilà.
Merci
beaucoup.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous pour le prochain numéro en anglais. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.